Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Dominus vobiscum.
Le Seigneur soit avec vous.
Jauna suekin.
El Señor esté con vosotros.
The Lord be with you.
Présentation de la nouvelle traduction française du missel romain. Monseigneur Marc Ayé.
Nous continuons là l'explication de la liturgie de l'Eucharistie, sous prétexte en effet de réviser un peu la nouvelle traduction qui était désormais entrée en vigueur. Et nous avons terminé le commentaire des quatre prières eucharistiques principales, celles qui ont été promulguées avec le missel par Paul VI en 1970. Elles se terminent toutes par ce que l'on appelle en effet la doxologie, hein, qui d'une certaine manière récapitule toute cette partie de la liturgie eucharistique, cette prière eucharistique, qui est principalement dans une dimension ascendante. C'est-à-dire, c'est l'offrande du sacrifice du Christ et l'union de toute l'Église à ce sacrifice de Jésus. Donc nous sommes en état d'offrande, et donc c'est la dimension ascendante du sacrifice et du sacerdoce. Et donc la doxologie, c'est-à-dire la glorification, pourrait-on dire, de Dieu, qui est cette première finalité de la liturgie, eh bien, est exprimée à travers cette conclusion que nous connaissons bien, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, auquel l'Assemblée répond par Amen. C'est la récapitulation que je disais, le pré-eucharistique, c'est-à-dire qu'elle est adressée au Père, comme on le voit bien, depuis le début. D'ailleurs, dans la première pré-eucharistique, on commence par Père très aimant, et c'est par le Christ, par son sacrifice précisément, qui a été rendu présent à travers la consécration de la messe, la double consécration du pain et du vin, en mémoire non seulement de la dernière scène, mais surtout de la mort et de la résurrection de Jésus, et dans l'unité du Saint-Esprit. On voit bien que la dimension trinitaire est toujours présente, évidemment, dans la liturgie, hein, qui a une dimension latrotique d'adoration de Dieu, et ce Dieu, c'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. On s'adresse au Père en faisant en sorte que notre offrande, unie à celle du Christ, lui rapporte tout honneur et toute gloire, c'est sa glorification, par Jésus. Comme on le sait, la plupart des prières de la liturgie se terminent par par le Christ, notre Seigneur, ou par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, etc., hein, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est par son intercession que toute la prière des hommes monte vers Dieu le Père, évidemment dans l'unité du Saint-Esprit. On sait combien le Saint-Esprit est très présent dans la liturgie, en particulier de l'Eucharistie, comme nous l'avons vu. C'est par l'épiclèse préconsécratoire, c'est-à-dire l'imposition des mains qui appelle l'Esprit-Saint sur les oblats, le pain et le vin, que ce pain et le vin vont devenir le corps et le sang du Christ offerts à Dieu le Père, dans la puissance donc de l'Esprit-Saint, et c'est aussi l'Esprit-Saint que l'on appelle pour que cette communion au corps eucharistique du Christ constitue la communion des membres de l'Église et qui devient le corps mystique du Christ. Le peuple des fidèles, donc, qui n'est pas beaucoup intervenu, évidemment, pendant la prière eucharistique, sauf au moment de l'anamnèse, hein, l'acclamation du mystère pascal du Christ, qui est le mystère de la foi que nous célébrons dans l'Eucharistie, juste après la consécration. Mais le peuple s'est uni à cette prière du Christ, rendue présente par la prière du prêtre, qui, au nom, dans la personne du Christ, sans doute, offre le sacrifice de Jésus, mais au nom de l'Église, adresse cette grande prière eucharistique au Père. Et le peuple s'y unit par ce « Amen » retentissant. Alors, dans les messes un peu festives, cet « Amen » est un peu orné, il est un peu déployé, développé, pour justement manifester que le peuple des fidèles s'unit vraiment au sacrifice du Christ par la prière prononcée par le prêtre. Ensuite, nous arrivons à la troisième partie de la liturgie eucharistique, rappelez-vous, qui sont exprimées par les paroles de Jésus au jour de l'institution. Il prit le pain, comme il prit le vin, ça c'est l'offertoire. Il rendit grâce et dit la bénédiction, maintenant, comme nous le disons dans la prière de consécration. Ça, c'est la partie sacrificielle, hein, qui est centrée donc sur l'offrande du sacrifice du Christ à travers la prière eucharistique, qui commence dans la préface, hein, qui est cette première, ce premier mouvement ascendant vers Dieu le Père et à sa gloire. Et puis, la troisième partie, qui est exprimé par cette parole de Jésus et ce geste, il le rompit et le donna à ses disciples. Vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle le rite de la communion. Hein, après l'offertoire, la prière eucharistique, c'est le rite de la communion, qui commence par la prière du Pater, du Notre Père. Hein, cette prière qu'on appelle l'oraison dominicale. Dans le mot dominical, il y a le mot dominus, qui veut dire Seigneur. C'est donc la prière du Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a institué. C'est lui qui l'a inventé. Hein. Comme nous le savons, chez saint Matthieu, c'est au cœur même du Sermon sur la montagne, qui est la charte parfaite de la vie chrétienne, dans les chapitres 5, 6 et 7 de son évangile. Et si l'on compte le nombre de versets qui précèdent l'oraison dominicale et le nombre de versets qui suit l'oraison dominicale jusqu'à la fin du sermon sur la montagne, eh bien on voit que le Notre Père est exactement placé au milieu du sermon sur la montagne. Donc c'est vraiment le cœur de la vie chrétienne. C'est le cœur de la perfection chrétienne que cette prière du Seigneur qu'il nous a apprise, qu'il nous a enseigné, qu'il a enseigné à ses apôtres. On sait que par saint Luc, c'est plutôt sur le mont des Oliviers, à Béthanie, où se trouve actuellement le fameux Carmel du Pater, qui domine la vallée du Cédron et qui donne une vue large sur la ville de Jérusalem, sur le mont Sion. Eh bien, c'est là que Jésus aurait enseigné cette prière du Notre Père à ses apôtres, que saint Matthieu a placé au cœur même du sermon sur la montagne, qui est encore une fois la charte parfaite de la vie chrétienne. Et chez saint Matthieu, nous avons sept demandes, et c'est cette version, qui est plus développée que celle de saint Luc, où on trouve que cinq demandes, qui a été retenue dans la liturgie depuis l'Antiquité. Alors donc, nous dirons d'abord un petit mot sur l'importance de cette prière du Pater.
Amen.